Scarp Ciné.
Séquence 15.
Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarf Sensé, ça tourne.
Et action!
Bonjour et bienvenue dans Scarp Ciné, dans une salle climatisée, loin de la fournaise de la ville. On se retrouve pour une heure de cinéma avec de l'humour au programme aujourd'hui. Émission exceptionnelle avec deux rencontres, deux grands noms de l'humour rencontrés au Ciné-Comédie à Lens-Liévin. Deux grands noms de l'humour donc en France. Le premier est membre de la troupe du Splendide. On l'aime en Père Noël, en bronzé ou en chef de chœur. C'est Gérard Jugnot qui est mon premier invité. Mon deuxième a fait rire la France entière en mettant en scène Patrick Chirac, Stommy Bugsy et toute la Jet Set. Le réalisateur Fabian Antoniente sera aussi dans l'émission. Et on terminera cette émission avec la révélation de l'humour. Mohamed Merabé, interrogé au Pont de Singe à Arras par Carole. Mais tout de suite, sur votre radio locale, Gérard Jugnot.
Scarp Sensé, au plus proche de votre cinéma, dans le magazine 7e art.
Scarp Ciné sur Radio Scarp Sensé, et j'ai l'honneur et le plaisir de rencontrer Gérard Jugnot. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter cette interview. Pendant 10 minutes, on va échanger sur vos rôles, puisqu'on est un festival de comédie. Alors, vous avez joué Pigné dans le Jouet, vous avez été Adolfo Ramirez dans Papy fait de la résistance et plein d'autres rôles dont on va parler tout de suite. Ce rôle, tout d'abord, de Jean-Baptiste Foucré dans Scout Toujours, votre réalisation. Un souvenir de tournage pour ce film.
Scout Toujours, c'est mon deuxième film. Et en fait, c'est un film assez autobiographique, mais pas dans mon rôle de Jean-Baptiste Foucré. L'autobiographie, c'était cette troupe de scouts un peu bizarre, un peu délinquant, limite. Et ça, c'était vraiment un truc que j'ai connu quand j'ai été scout. J'ai adoré d'ailleurs être scout. Et c'était des scouts pas tout à fait conformes à la norme, quoi. On était un peu des outlaws. Mais donc, ça m'avait amusé de raconter ça. Et c'est un film qui a eu un succès moyen, enfin un bon succès à la sortie, mais surtout qui a été multi-diffusé. Je crois que c'est un des films français les plus diffusés. On m'a dit l'autre fois, ça avait été diffusé au plus de 35 fois. C'est dingue, quoi. Ça, je suis assez fier de ça, d'ailleurs, de que ce soit des films, comme je dis toujours, des films de garde, qu'un film qui a plus de 35 ans continue à faire les beaux jours et à plaire à des spectateurs qui n'étaient même pas nés, ou même leurs parents n'étaient même pas nés. Donc ça, c'est assez touchant, quoi.
On lève les scouts, on lève le camp!
Bah pourquoi, on était bien là?
Bon, écoutez madame, c'est simple, si vous recevez encore un de mes scouts, je préviens la gendarmerie.
Si tu fais ça, t'es mort.
Ah, les petits vis là, hein. Ils savent tout de suite où ça fait mal, hein. Rien ne les arrête. Tout ne me touche pas! C'est un chef que vous voulez, vous l'avez trouvé. Et j'espère que vous allez en chier.
Vous avez joué Pigné en 76 dans Le Jouet de Francis Weber. Là aussi, jouer dans un film de Francis Weber, il y a plein de souvenirs qui remontent.
Oh, c'était un tout petit rôle, hein. J'avais une dizaine de jours, je me faisais virer parce que j'avais les mains moites, je crois, par le type qui était une sorte de Dassault, un milliardaire à la Bolloré. Oui, c'était le premier film de Francis. Il y avait quelqu'un qui l'aidait à réaliser. Mais moi, j'ai surtout rencontré Francis quand j'ai joué au théâtre Cher Trésor. C'est une très jolie pièce qu'il avait écrite, une des dernières qu'il a écrite, qu'il a mis en scène. Et là, j'ai beaucoup rencontré. Et on a joué, je ne sais pas, 500 fois. Je me demande si je ne suis même pas venu jouer à Lens ou à Arras. Et là, c'est vrai que c'est un... Il a une force, Francis. Ce n'est pas facile de travailler toujours avec lui, parce qu'il est très exigeant. Mais il a une phrase que j'ai notée qui disait écrire, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Et c'est vrai, c'est le côté comme ça, revenir toujours pour trouver la bonne phrase, la bonne situation, c'est un travail comme ça, besogneux, mais extrêmement difficile et qui fait très bien.
Il y a des rôles qui collent à la peau, notamment, je l'ai cité, Adolfo Ramirez dans Papy fait de la Résistance en 83, diffusé chaque année sur France Télévisions et qui fait toujours un énorme carton d'audience.
Oui, oui, c'est un personnage très, très caricatural, hein. C'est, qui arrive à faire rire en faisant à Hitler, c'est quand même pas gagné. Mais oui, puis c'est pas un film sur la guerre, c'est un film qui parodie les films de guerre que nous on avait vus. Il y a eu beaucoup de films comme ça sur la guerre où on se demande pourquoi on a perdu la guerre tellement on était intelligent et les Allemands tellement bêtes. Donc c'était assez amusant. C'est vrai que les gens m'en parlent beaucoup de ce film-là.
Alors, elle se souvient pas de moi, la pintade ? Juin 41, l'opéra. Souviens-toi du vase de Soissons. Excusez-moi, mais quand on est énervé, ça soulage. Alors, on n'ospite plus les concierges, il est monté en grade, le Ramirez, hein ? Ça fait 2 ans que j'attends ce moment, vous allez comprendre votre douleur.
Mais il y a une légère erreur. Nous avons toujours reconnu vos grands mérites, Rami.
Monsieur Ramirez, c'est fini ! Il n'y a plus de Rami, il n'y a plus de Rami !
Et puis, vous vous autorisez aussi des rôles, aussi, comme dans L'île au trésor, où vous êtes un pirate.
Oui, c'est pas le meilleur film que j'ai fait. Il était un petit peu raté, celui-là. Mais comment refuser un rôle où on vous déguise en pirate avec une jambe en moins et on va tourner sur un bateau et il y a des combats. Et on a tourné en Thaïlande, c'était un tournage formidable, quoi. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent refuser de s'amuser comme ça à jouer au pirate. Parce qu'en fait, c'est quoi mon métier d'acteur et surtout dans la comédie, c'est... À l'époque, on offrait à Noël des panoplies. Je ne sais pas si ça existe toujours. Et bien là, depuis plus de 40 ans, même presque 50 ans maintenant, on m'offre des panoplies. Une panoplie de gendarmes, une panoplie de scouts, une panoplie de chevaliers, de pirates. Donc c'est assez épatant. Là, moi, je suis en train de terminer le film d'Edouard Pluvieux, la suite de Il n'y a pas de réseau, avec ce fou de Maxime Gastoy. C'est un film de clown, quoi. Donc on joue deux père et fils, des abrutis finis. Et c'est un grand plaisir de jouer des idiots. Et en plus, là, on tournait au soleil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Une fois que je vous ai dit, on ne discute pas les décisions de l'arbitre.
T'es pas arbitre, t'es tué.
Vous avez joué dans plusieurs films aussi avec d'Elie Semoun, aussi Monsieur qui triche, qui est aussi un personnage récurrent, qui va revenir d'ailleurs cet automne.
Oui, oui, c'est drôle parce que dans Du Cobu, les mômes adorent ce film, les gens dans la rue. Les mômes, à chaque fois que je vois un petit, hein, c'est les petits. Ils voient Monsieur qui triche, qui est un personnage qui leur plaît beaucoup. Mais en plus, il y avait 3 jours dans le premier film, après 8, après 10. Et là, maintenant, j'ai un rôle très important dans le dernier qui est Du Cobu avec l'histoire de Halloween, quoi. C'est un film plus. On sort de l'école et c'est assez marrant. Quoi. Je crois que le film est assez réussi.
Vous venez d'une bande et vous mettez aussi au service d'autres bandes, aussi, notamment la bande à Fifi. Et c'est vrai que c'est un héritage aussi de partir d'une bande et d'aller aussi sur d'autres bandes.
Oui, c'est une transmission. Quoi. Moi, je suis très heureux. Quand nous, on était jeunes, on était ravis de tourner avec Bullier, avec Rochefort, Marielle, Noiret, Serrault, tout ça, ces gens, Pierre Richard. Bon, c'était vraiment un bonheur pour nous. On avait des seconds rôles, mais on était fascinés par eux. Alors, moi, je ne me compare pas à ces gens-là, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de transmission. Moi, j'ai aidé un petit peu Fifi et Lachaud dans Babysitting. Et après, maintenant, il m'a adopté. Je trouve ça assez jouissif, quand même, d'être adopté par la jeune génération ou de tourner avec Maxime Gasteuil ou avec d'autres jeunes, comme ça.
Bonjour, je suis Serge Martin. Je suis désolé, je ne pensais pas que l'aéroport était aussi grand.
S'il vous plaît, monsieur.
Mais attendez, pourquoi vous m'emmenez, là ?
C'est lui ?
Un petit truc, non ?
Oui, carrément.
Mais ça va pas bien, vous êtes des grands malades.
Vous êtes Thierry Durand de Solilès.
C'est un échange parce que Philippe Lachaud est dans votre nouveau film et vous êtes donc Serge Martin dans Mauvaise Pioche que vous présentez ce soir.
Oui, que le film est déjà sorti, mais c'est un film que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, parce que justement, c'est un film d'acteurs. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait Daroussin, il y avait Zabou, il y avait Thierry Lhermitte, Morel, tout ça. Et puis aussi des jeunes comme Rim qui est ici, ou Philippe Lachaud. Donc je me suis régalé. J'avais l'impression d'organiser un goûter, puis que plein de copains venaient avec moi pour jouer, pour qu'on s'amuse ensemble.
Vous avez un regard aussi sur la société, aussi avec de l'humour, justement, avec Mauvaise Pioche, on en parlait aussi avec Fabien Antoniente, une voix aussi qui fait partie de notre famille, et un sens aussi du groupe, du collectif. C'est ça aussi, vous aimez filmer la troupe.
Oui, puisque comme on a, ça je vais en parler, puisqu'on est ici dans un pays de football, moi je me considère un peu comme le, non pas comme un entraîneur, comme Deschamps ou Henrique, mais comme un capitaine d'une équipe de foot. Donc je joue avec avec les gens que je dirige un peu. Et en même temps, je prends du plaisir. Je dirige et en même temps, je prends du plaisir avec eux et je joue avec. Et ça, c'est un truc que je trouve qu'il y a des similitudes quand on est à la fois capitaine, même si le capitaine dirige moins que l'entraîneur, mais quand même, il drive un peu. C'est un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre qui joue aussi d'un instrument. Quoi.
On est ici au Festival de Ciné-Comédie. Votre relation avec le Nord ?
Moi, je suis plutôt du sud. Hein. Ma femme est marseillaise, puis j'aime bien le soleil et la mer chaude. Mais je veux dire que j'ai tourné dans beaucoup d'endroits. J'ai tourné en Bretagne, j'ai tourné dans le sud, dans le sud-est, dans le centre. Je n'ai pas tourné beaucoup dans le nord. Là, il y a Danny Boone qui m'avait proposé un truc, mais je ne pouvais pas le faire. Là. Mais j'ai beaucoup joué au théâtre, à Lille, à Arras, tout ça. C'est un pays qui a une beauté, qui est très... Là, quand je voyais là, les terrils, tout ça, les corons, ça, c'est quand même un truc, c'est marqué. Puis, moi, malheureusement, j'avais deux grands-pères qui avaient fait la guerre de 14, et donc qui me parlaient beaucoup de d'Artois, de Verdun. Donc le Nord, c'était un petit peu pour moi là où il y avait la guerre. Mais après, on a fait beaucoup de... Moi, j'ai tourné pas mal en Belgique, et donc c'est des pays... En France, on a la chance d'avoir des villages, quoi. C'est-à-dire que la Bretagne, c'est pas comme le Pays Basque, c'est pas comme le Pays de Loire, c'est pas comme l'Auvergne, c'est pas comme le Sud-Est, c'est pas comme l'Alsace, et le Nord, il est plat, un peu plat, mais il y a des choses vraiment très belles. Le public du Nord est très, très chaleureux. C'est toujours un grand bonheur de venir jouer ici.
Et ben on vous laisse avec ce public chaleureux au Ciné-Comédie, donc à Lens. Merci beaucoup, Gérard Jugnot. Merci à vous.
Merci à vous.
Coup de tonnerre dans l'affaire Durand de Solilès. Un homme vient d'être arrêté en Italie, le principal suspect du quadruple meurtre de Brest.
C'est une erreur, comprenez ? Une erreur !
Ça pue le fait divers, hein. J'espère pour vous que c'est vraiment lui. Parce que sinon, votre prochaine enquête, je vous envoie très loin.
Au trou du cul du monde, je vous envoie.
Ce type, je l'ai jamais senti. Et puis, les noms composés de deux prénoms, ça sent pas beau. Guy Georges, Patrick Henry...
Édouard Philippe.
Dans un petit village comme le nôtre, ce genre d'histoire, pour les gens, c'est pas simple.
À cause de lui, j'ai perdu des clients à la boucherie.
C'est pas plutôt qu'elle est pourrie, ta viande ?
Du haut.
Avec tout ça, j'ai mon osso bucco qui est moi sur les bras.
Oh, pas d'inquiétude. Hein. Depuis le temps que je l'attends, je vais te le dévorer, ton osso bucco.
Serge, je peux te dire que je suis pas bien. J'aurais pu perdre ma place de maire avec cette connerie. Alors que moi, toi, c'est différent, t'es personne.
Toute ma vie, j'ai eu peur. Toute ma vie, je me suis excusé. Et ben moi, j'en ai marre de m'écraser.
C'est quoi ces conneries, là-haut ?
J'imaginais pas que ça prendrait sa proportion.
Tu dors pas ? Je te surveille.
Cassez les roustons avec vos intuitions foireuses.
Quel beau moment, n'est-ce pas, sur Radio Scarpe Sensé et Radio Club. Gérard Jugnot, qui a reçu un prix d'ailleurs d'honneur lors de la 10e édition du Ciné-Comédie à Lens, après la projection de son dernier film, Mauvaise Pioche. Tout autre chose, saviez-vous que cette année on fête les 50 ans, les 50 ans d'une comédie culte de Claude Zidi, Coluche de Funès. Oui, je parle de L'aile ou la cuisse, qui a 50 ans et qui ressort en ce moment au cinéma. Alors on va pas se priver d'écouter la BO culte de Vladimir Cosma, en avant la musique dans Scarp Ciné.
Des terris au beffroi, le cinéma du Nord s'invite chez vous sur Scarp Sensé.
C'est culte et j'adore cette musique de film à 50 ans cette année, tout comme le film « L'aile ou la cuisse » de Claude Zidi. À Lens, lors du ciné-comédie, Laurent de Funès, le comédien et petit-fils de Louis de Funès, a d'ailleurs raconté les coulisses du film avec ses grands noms du cinéma. Et « L'aile ou la cuisse » ressort au cinéma. Regardez près de chez vous, peut-être il est sur votre grand écran. Notre prochain invité est un nom de la comédie française. Entretien avec Fabien Antoniente, le réalisateur, entre autres de Camping avec Franck Dubosc.
Scarp Ciné, dans les coulisses des tournages de films et séries au coin de votre rue.
Fabien Antoniente, vous présentez 3-0, donc votre film sur le football, mais aussi votre livre, Alors on n'attend pas Fabien, du HLM au box-office. Vous êtes le réalisateur de Jet Set, 3-0, Camping, Disco, 4-0 dernièrement. Et derrière ce réalisateur comédie française à succès, il y a ce passionné de foot, le PSG, bravo d'ailleurs pour la deuxième étoile. Il y a l'amoureux de la comédie, de Coluche, un fervent auditeur de la radio. Et cette histoire avec ce cinéma, elle est belle parce que c'est pas vous qui êtes allé vers le cinéma, c'est le cinéma qui est allé vers vous.
Oui, tout à fait. En fait, la catchline du livre, le sous-titre du livre, bon, le titre c'est « Alors, on n'attend pas Fabien ». Et ensuite, le sous-titre c'est « Du HLM au box-office ». Donc nous, nous vivions, mes parents et moi, mes frangins aussi, ma sœur, dans une cité HLM qui était dans une ville portugaise. On vivait dans une ville où il y avait une grosse comédie portugaise. Et de l'autre côté de la voie ferrée, on avait notre appartement donné sur la voie ferrée. La voie ferrée était tellement proche qu'on avait l'impression qu'on était une famille de garde-barrière. Et de l'autre côté, il y avait des bidonvilles dans lesquels vivait cette communauté portugaise. Et un jour est arrivé, s'est construit dans ces bidonvilles. C'était notre terrain de jeu, nous. On traînait avec nos vélos. Moi, j'étais souvent en short, en chaussettes avec mon vélo. Et on allait manger des prunes. C'était notre terrain de jeu, c'était notre jardin. Puis un jour est arrivé dans ce bidonville un tournage de cinéma. C'était un tournage de Michel Audiard. Moi, je regardais cette maison Louisiane qui s'est construite en deux jours. Et j'allais de plus en plus voir ce tournage et de moins en moins à l'école. Et je voyais débarquer ces acteurs, Bernard Blier, Annie Girardot, Maurice Biro, Jean Carmet. C'était extraordinaire pour moi de voir tous ces grands acteurs là, dans un bidonville. Alors, vu que j'étais là tout le temps, mais plus du tout à l'école, un jour, il y avait une scène où Jean Carmet tend une chaussette grise au personnage de Jésus, dans ce film de Michel Audiard qui s'appelait « Elle cause plus, elle flingue ». Et la chaussette était grise, donc elle ne se voyait pas assez. Donc Audiard, à un moment donné, se tourne vers moi. Je portais des chaussettes rouges. Donc il vient vers moi et il me dit « Gamin, est-ce qu'il serait possible de prendre tes chaussettes ?» Je dis « Bien évidemment ». Et donc je donne ma chaussette. Moteur, clap, action. Et tout d'un coup, le plateau rit. Impossible. Donc ma chaussette, évidemment, était trop petite. Je chaussais du 32. Mais Audiard est revenu me disant « Bon, la chaussette, elle va pas faire l'affaire, mais tu peux rester avec nous. » Et il m'a tendu une pièce de 5 francs en argent que j'ai toujours. Et c'est comme ça que le cinéma est un peu rentré dans ma vie avec une première piqûre. La deuxième piqûre, mon père était un pied noir très mélancolique. Et donc, ma mère était bretonne. Et puis, un jour, mon père nous a emmenés voir Le Corneau. Ce pied noir très mélancolique, riait pas beaucoup dans sa vie. Il avait gardé cette mélancolie des pieds noirs dans cette banlieue parisienne. Et on voyait que ça lui plaisait pas trop, quoi. Et alors, un jour, on va voir Le Corneau. C'était une salle de cinéma de quartier. Il y avait les pubs comme avant qui précédaient le film. Il y avait les ouvreuses. Bonbons, esquimaux, chocolat glacé, chantait-elle en passant dans les rangs comme ça. Et puis après, le rideau s'est ouvert, c'était Le Corneau. Toute la salle riait, toute la salle était orientée vers le même écran et j'ai vu rire mon père. Et quand j'ai entendu rire mon père, je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
Après ce film, vous aussi, vous avez envie de rentrer dans le 7e art pour faire rire en hommage à votre père et puis continuer à faire rire le public pour voir cette énergie du public ensemble, cette communion.
Oui, parce que j'ai toujours aimé le rire ensemble. D'abord, j'aime quand le public est ensemble pour les matchs de foot, pour le Tour de France, pour les Jeux Olympiques. J'aime quand les gens sont motivés pour une seule énergie, quoi. Donc le rire ensemble, moi, ça me paraît une récompense. Et quand j'entends une salle rire, pour moi, c'est mon César.
Dans ce milieu, il y a deux catégories de Lascar. Les enculés d'attaque et les enculés de défense. Qui, pour faire proprement leur boulot, sont obligés d'enculer les enculés d'attaque.
Fais-moi confiance, j'ai ma méthode.
Ouais, c'est quoi la méthode Colonna ?
Moi, j'ai l'impression que c'est la pierre que je cherche.
Si on continue comme ça, c'en est fini du foot féminin. Arpajon.
Vous le dites dans votre livre, c'est aussi le souvenir de votre père et de votre mère. Et vous le dites d'ailleurs dans votre autobiographie qu'elle est présente dans tous vos films, dans les personnages, comme dans Jet Set, où le personnage fiche sur tout le monde. Et vous dites c'est un hommage à votre maman. Votre maman apparaît partout dans les films.
Oui, parce qu'en fait, mon père était d'un pied noir très mélancolique, qui voyait les choses d'une manière un peu négative. Mais ma mère bretonne, d'Ille-et-Vilaine, voyait toujours les choses plus positives. Donc c'est un peu grâce à elle que j'ai pu y croire. Et donc cette motivation, cette ténacité de granit bretonne m'a toujours m'a poussé, quoi. Et quand mon père, qui voulait qu'on ait une belle situation, il voulait qu'on fasse des études pour avoir une belle situation, c'est comme ça qu'il s'exprimait à l'époque, il faut avoir une belle situation, mon fils. Eh bien, moi, j'ai fait plaisir dans un premier temps à mes parents. J'ai fait des études, j'ai eu une situation. J'ai même travaillé dans le commissariat à l'énergie atomique, séparation isotopique de l'uranium 235 et 238. J'ai tenu 15 jours. Hein, et donc, un jour, j'ai dit à mon père, non, je veux faire du cinéma. Et donc, j'ai choisi un chemin plus compliqué, un chemin plus pentu. Et voilà, donc... Mon père ne s'en est vraiment jamais remis de que je lui ai annoncé cette nouvelle, puisqu'il m'a jamais pu parler de mes films. Mais peut-être qu'il était content pour moi-même au fond.
Et vos personnages dans vos films sont en grève, comme Grève Party, son campeur dans Camping, son turfiste dans Turf, sont aussi à la retraite hein, dans All Inclusive. Ce que j'adore dans votre cinéma, c'est qu'il y a ces personnages de comédie, mais ces personnages qui sont proches du public, c'est des gens qui nous parlent.
Oui, bah je regarde les gens à hauteur d'homme, c'est-à-dire c'est des Français que j'ai connus, que je connais, parce que j'ai fréquenté ce milieu-là, j'ai fréquenté cette... Moi j'aime la fraternité ouvrière, j'aime quand les gens sont solidaires, j'aime les Français quand ils sont solidaires. Même j'ai remarqué dans les catastrophes, quand il y a des inondations, ils s'aident les uns les autres. Et moi c'est comme ça que je regarde les Français. Je trouve que les Français sont beaux à voir quand ils sont unis, quand ils sont au camping. Ils sont contents de se retrouver leur rendez-vous de vacances. Ils viennent de toutes les régions de France en s'appelant par leur région, le 44, le 37, le 59, pour parler du Nord. Et voilà. Donc c'est, je les regarde comme ça, avec leurs défauts et leurs qualités, parce que les gens ne sont pas tout blancs ou tout noirs. C'est la partie grise qui est marrante. Mais j'aime regarder les Français, ouais.
Tu t'appelles un russe en te faisant passer pour un prince ou un truc dans le style. Tu sympathises avec les VIP, les stars du showbiz, les marquises de mille couilles. Et hop, tu fermes, tu ramènes tout ça au Bombay.
Mais d'où il sort celui-là?
Personnages un peu plus fantasques comme dans Jet Set, dans People, la suite, vous y mettez beaucoup d'humains finalement. Il y a de ça, hein. Vous essayez à votre regard de capter l'humain, même dans ce qui est un peu extravagant.
C'est le meilleur terreau, ouais. L'humain. Mm-hmm. C'est ma matière, c'est comme ma pâte à modeler, là, je peux travailler. Ouais. Et s'il n'y a pas l'humain, si c'est en plastique, j'ai du mal.
Le football, il a changé, monsieur Colonna.
Ah, frérot.
On est là, frérot.
Ok, frérot.
Dis-moi, c'est quoi cette famille de frérot? Il y a une portée ou quoi? Ouais.
Je vais faire venir un ami qui n'est pas vraiment de la génération, frérot. Hein. Monsieur Giroud.
Sérieux, c'est une blague, là?
Bon, écoute, si c'est pour dénigrer tout ce que je fais, on arrête tout, d'accord? Ça te dirait de changer de vie, José? J'aimerais que tu te fasses passer pour le directeur de foot d'un club.
Sylvie, j'ai envie que tu m'admires à nouveau.
Alors, en tant que passionné de foot, vous captez ce sport et ce monde dans 3 et 4-0. Est-ce que ce sont quand même des films qui sont plus difficiles à réaliser quand on est soi-même fan de football? On se dit, pour les footballeurs, pour les passionnés comme moi, il ne faut pas se rater.
Oui, c'est pas facile parce que, effectivement, ce sport est très bien filmé aussi, hein, à la télévision. Donc, moi, je n'ai pas été directement vers. Les actions, je filme les actions bien évidemment, mais ce qui m'intéresse c'est les entourages de joueurs, c'est les agents, le côté un peu pieds nickelés. Et donc c'est là où j'arrive à mettre la comédie, parce que sinon on ne peut pas mettre de comédie. C'est les bras cassés qui m'intéressent.
Et dans 3-0, vous montrez, c'était un film en 2002, et vous montrez déjà un peu ce foot business avec le pouvoir de l'argent, des agents, mais aussi le football féminin avec une formidable Isabelle Nanty. Voilà, c'est capter ça aussi, ces moments, ces évolutions, en y mettant toujours de l'humour.
Oui, parce que Isabelle Nanty, qui joue la sœur du personnage de Gérard Lanvin dans 3-0, elle entraîne comme si c'était l'équipe de France, une équipe de bas de gamme qui s'appelle les Haricots d'Arpajon, en leur disant façon Aimé Jacquet, il y a un très gros problème en défense. Et donc le gros problème en défense, elle n'a pas repéré que c'était elle, qui est la gardienne de but, et qui prend des buts, but sur but, ce qui fait que les numéros, enfin les buts qu'elle prend, les scores sont tellement impressionnants que Lanvin lui dit, c'est plus des scores, c'est des numéros de loto, 10-0, 8-2, voilà. Donc c'est là où ça arrive la comédie aussi.
Il y a un très gros problème en défense.
Comme des problèmes de thunes, vous en parlez jamais. Il vaut combien?
Pour l'instant, il vaut le détour.
On veut des miracles.
jamais sorti qu'un numéro 27.
Votre écriture, c'est des répliques percutantes, franches, hein, bien sûr. Alors on n'attend pas Patrick, tiré aussi de votre livre. Hein, alors on n'attend pas Fabien. Une écriture franche, percutante, mais jamais moqueur. Il y a vraiment un amour pour les personnages et de la poésie aussi. Ce Patrick Chirac, comme ce Didier Travolta dans Disco, c'est des personnages qui viennent de rencontres.
Non, il y a une base. Et puis après, je mets une certaine dose de... C'est, en fait, je m'inspire pas mal des dessins de Sampé, qui sont des dessins où on monte un petit être humain dans un grand monde. Et donc, il faut qu'ils aient une touche, une esquisse attachante et une délicatesse. Donc, même s'ils sont parfois lourds, ils sont quand même assez fins à dessiner.
Alors, on vous parle évidemment beaucoup de camping et de ses suites. Parfois, on vous parle beaucoup de camping. Est-ce que pour vous, c'est bien sûr un succès pour vous, mais est-ce que parfois aussi c'est réducteur de parler que de ça? Comment vous avez géré l'après-camping?
Je ne vais pas me plaindre. Hein. C'est ma mère, justement, Alphonsine, qui est dans tous mes films, disait toujours, il y a des choses plus graves, hein. On ne va pas se plaindre. Ne jamais se plaindre, c'était sa devise. Donc je ne vais pas me plaindre que les gens aiment camping. Non, au contraire, je prends ça comme une marque de reconnaissance, d'affection. Et quand les gens me disent, m'interpellent, me disent « continuez de nous faire rire », je donne de mon mieux pour être un marchand de bonheur, pour donner un peu de joie aux gens, parce que je trouve que le monde actuel, le contexte, il est un peu anxiogène. Donc moi, je ne fais pas de politique. Moi, ma politique, c'est de faire rire les gens.
Monsieur Chirac est demandé à la réception. Monsieur Chirac.
C'est pour moi.
Tu t'appelles Chirac, toi?
Ben oui. Chirac. Patrick Chirac.
Mais pourquoi tu ne changes pas de nom?
Pourquoi c'est moi qui changerais?
Pastis Parfumbleu.
Pastis délicieux.
Or, on n'attend pas Patrick.
Et justement, c'est en voyant aussi les sujets d'actualité, en voyant aussi la population, que ça vous inspire dans l'écriture de vos films?
C'est-à-dire que je regarde toujours le monde qui m'entoure. Et j'arrive toujours à... C'est une espèce de mécanisme à trouver quelque chose de drôle dans une situation. Les gens qui... Par exemple, là, par exemple, l'organisation d'un festival... Où il y a différents caractères, chacun a son rôle, et quand on observe un tout petit peu de l'extérieur, on peut y voir une comédie.
Oui, donc il y a toujours ce regard aussi de réalisateur derrière, même quand on est dans un festival.
Toujours. Ouais. Là, j'ai vu des choses aujourd'hui qui sont marrantes, et qui, c'est ma façon d'observer le monde. C'est-à-dire qu'un réalisateur, c'est quelqu'un qui vous donne des grandes lunettes pour regarder comment il voit le monde. Donc c'est un point de vue.
Dernière question, Fabien Antoniente. Vous présentez votre film ici 3-0 au Festival de Ciné-Comédie à Lens. C'est aussi fort qu'on retrouve aussi vos films, un film qui date de 2002, à nouveau projeté, et il y a un échange derrière autour du football. Pour vous, ça fait quoi de revenir sur un de vos films qui a marqué votre carrière?
Je regardais le début là tout à l'heure. Je trouvais que c'était filmé. On était bien en avance parce qu'on voit le Paris Saint-Germain, les tribunes pleines, les gens qui exultent. On a l'impression de voir le stade pour la deuxième étape. C'est toujours la même enceinte, hein, c'est le Parc des Princes. Les propriétaires ont changé depuis, mais c'est encore une. Ce parc, c'est quand même mythique. Mais ça m'a ému de le présenter ici à Lens, parce que la première fois que je suis venu à Lens, c'était pour avoir des conseils de Roland Courbis, qui entraînait Lens, et qui en fait est devenu mon conseiller technique. Donc il m'a appris les astuces, les malversations qu'il y a dans le foot et qu'on peut y voir dans 3-0. Donc pour moi, Lens est relié à 3-0.
Voilà, la boucle est bouclée. Voilà. Merci beaucoup Fabien Antoniente d'avoir répondu à ces questions pour Scarpe Ciné sur Radio Scarpe Sensé depuis le festival Ciné-Comédie à Lens.
Scarpe Ciné, l'émission qui vous regarde entre Douai, Cambrai et Arras.
Alors, on n'attend pas Fabien, l'autobiographie de Fabien Antoniente, réalisateur à retrouver en ce moment dans toutes les librairies. Et lors du Ciné-Club, il est venu présenter le film culte sur le foot, 3-0 avec Stummy Bugsy. Et on écoute d'ailleurs ce rappeur-acteur avec la BO du film et on écoute Motivation.
Passe-moi la balle que je frappe comme un bourrin. Non, non, je veux m'amuser à dribbler tout le terrain. Le foot c'est comme la vie, chacun sa place. Des fois on fonce et ça passe ou ça casse. Hola, hola, le stade est rempli. Les supporters font la hola. Olé, olé, on peut bodin ça. Motivation, motivation. Partout ça joue le ballon, même en prison. Les dollars mettent des tôles au FC Maton. Tactique, technique de barbare. Pour avoir l'or, alors cadre et tire passant là-bas. Transversal, l'été transversal. Le monde est rond comme une balle. Les villes, les tacles, obstacles. On veut des miracles. Certains se croient au catch pendant le match. Hola, hola, le stade est rempli. Les supporters font la hola. Olé, olé. Les magiciens du ballon, filles ou garçons. Le mot d'ordre c'est mettre la balle au fond. L'entraîneur veut de la motivation, motivation. Olé, olé. Motivation, motivation. Y'a des mecs qui jouent perso, nerveux comme des puceaux.
Attends, attends, je vais tenter un cutter.
Passe le ballon.
Attends deux secondes, je vais tenter de retourner.
Passe le ballon.
Sur la vie de ma mère, je vais lui faire un
putain. Putain, passe le ballon. Je fais mon show à la Diego Armando Maradona. Y'a des femmes dans les tribunes, bonnes comme Madonna. Et quand y'a le pénalty, c'est le paradis. Qui va rétis, suspect au Stade de France. Ou à la Tessie, pelouse ou bitume. Les buteurs sont là, crampons ou pieds nus. Les buteurs sont là. Marqué pour marquer, les défenseurs sont là. Aide de pigeon, scorpion, ouah, le rôle est là. Hola, hola, le stade est rempli. Les supporters font la hola. Olé, olé. Les magiciens du ballon, filles ou garçons. Le mot d'ordre c'est mettre la balle au fond. L'entraîneur veut de la motivation, motivation. Olé, olé. On peut te bodin ça. Motivation, motivation.
Almost dab, quel ball qu'on mettait, on shoot la den. Ça jongle, ça drip, pieds nus comme à Saint-Vicente. Tous les enfants du ghetto, what, sing, say. Avec une balle au pied très tôt. Pression, pression, tout le monde cherche le goal. Va à droite, va à gauche, on cherche le goal. Talonnade et coup franc, on cherche le goal. Le gardien sort, je l'obé. Yeah!
Hola, hola, le stade est rempli. Les supporters font la hola. Olé, olé. Les magiciens du ballon, filles ou garçons. Le mot d'ordre c'est mettre la balle au fond. L'entraîneur veut de la motivation, motivation. Olé, olé. Motivation, motivation.
Motivation, motivation, Stummy Bugsy, un titre qui est d'actualité aussi, au cœur de cette Coupe du Monde. Et c'est la musique du film 3-0 de Fabien Antoniente. Le réalisateur était à l'instant mon invité pour parler de son livre « Alors on n'attend pas Fabien ». Une émission sous le signe de l'humour aujourd'hui qui continue avec un jeune humoriste lillois. Il s'appelle Mohamed Merabé et il nous livre tout de suite son instant ciné avec Carole.
Une heure de cinéma sur le 94.1. Vous écoutez Scarpe Ciné.
Qu'est-ce qu'on fout là ?
ça sent le slip. On avait tout. Tu étais une star, tu t'en souviens ?
Donc moi c'est Mohamed Merabé, je suis humoriste à Lillois. Il y a quelques années, j'ai découvert Birdman, c'est avec Michael Keaton, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est une espèce de plan-séquence comme ça, tout du long. C'est un super beau film, rythmé par du jazz. C'est un personnage qui est un peu schizophrène, en fait, du coup. Il croit qu'il est son ancien rôle. C'est un peu une star déchue, qui se met à écrire une pièce de théâtre. Ça se passe pas comme il veut. Il se passe plein de choses. En plus, c'est assez coloré, les personnages sont tous un peu charismatiques. Enfin, ils sont très charismatiques, les personnages. C'est vraiment super intéressant. C'est un film que je peux conseiller, en vrai, à tout le monde, à tout le public.
Est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise que vous montez cette pièce pour vous débarrasser de cette image de super-héros au rancard qui vous colle à la peau ?
Pas du tout, c'est même tout le contraire, puisqu'il y a déjà 20 ans, j'ai refusé de participer au tournage de Birdman 4.
Birdman 4 ? Oh ! Vous faites de Birdman 4 ?
Le réalisateur donne l'impression que c'est filmé en une fois. On dirait qu'il n'y a jamais de cut, et c'est tellement fluide et beau, et encore une fois, la musique, moi, ça me touche particulièrement, la musique. Là, ça rajoute de la beauté de l'essence à la scène et tout, c'est vraiment, vraiment incroyable, je crois que c'est ça qui me touche le plus. Des personnages qui sont encore une fois très charismatiques, qui dégagent quelque chose d'unique en fait en soi, comme le personnage de Birdman en fait. Et en plus, ce qui est touchant pour moi, c'est que c'est un artiste. Donc je peux me reconnaître un petit peu dans mes heures sombres. Parfois, on peut être un peu en questionnement, etc. Donc là-dessus, je me reconnais. Moi, ça doit me toucher. Je sais pas, il y a un film doit avoir quelque chose d'assez réaliste en fait pour que ça me touche. Faut que ce soit proche de la réalité, pas que ce soit de la science-fiction. J'aime bien la science-fiction, mais à petite dose. Je préfère un film qui va me toucher, je préfère avoir des émotions et voir quelqu'un en qui je peux me reconnaître.
T'as pas compris ? C'est toi le vrai super-héros.
En fait, ce qui est particulier avec les films d'humour, c'est que parfois ça peut ne pas me faire rire parce que c'est pas du tout mon humour, j'ai un humour assez particulier. Moi, le seul film qui fait vraiment pleurer de rire, en fait, il y en a deux, c'est le film d'Alain Chabat, c'est R et La Cité de la Peur. C'est les nuls. La Cité de la Peur, je peux pleurer de rire. Même si je le vois 5000 fois, ça me fera toujours autant rire. Et voilà, mais c'est particulier. J'avoue que par exemple, des comédies de Franck Dubosc, ça va moins me toucher. J'aime bien regarder pour me détendre, mais ça va moins me faire rire, ça va moins m'inspirer que d'autres films, par exemple.
Tu es Birdman. Tu es un dieu.
Va chercher ton costume d'oiseau, ta paire d'ailes et ton bec.
Je pense qu'il faut juste consommer un maximum de films parce que ça fait vivre l'imagination. Moi, ça nous évade aussi parfois. C'est la seule chose que je pourrais dire.
J'ai eu une chance à saisir, tu comprends ? Une chance unique.
Arrête de sourire comme ça, tu me fais flipper.
Ah, oui, pardon.
Enregistré au Pont de Singe à Arras, Mohamed Merabé dans l'instant ciné avec Carole. Mohamed Merabé qui sera d'ailleurs le 1er juillet au Spotlight à Lille pour son spectacle À quoi bon ? Autre humoriste de la région, je vous annonce que dans quelques jours, il y aura sur Radio Scarpe Sensé Ilyes Djadel pour son film Tombé du ciel. C'est un humoriste roubaisien reconnu dans le Jamel Comedy Club. Et je l'ai interviewé il y a quelques jours. Et pour terminer cette saison de Scarpe Ciné, nous entendrons cette rencontre pour ce film. Scarpe Ciné, c'est déjà fini. On se retrouve la semaine prochaine pour une spéciale Toy Story, le film du moment, avec un collectionneur à ne pas manquer. Donc retrouvez-nous sur radioscarpesensé.com. Et d'ici là, vous le savez, allez au cinéma.
Scarpe Ciné.
Séquence 15.
Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarpe Sensé, ça tourne.
Et action !